Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?
Renaud avait un visage inquiet. Émile l'avait appelé en pleine journée pendant le travail pour lui asséner.
Laura me quitte.
Il avait abandonné son cabinet d'orthophoniste le plus tôt qu'il avait pu. Il avait couru chez Émile et Laura. Émile avait ouvert, les yeux rougis, l'air hagard. Renaud avait demandé.
Elle est là ?
Émile avait secoué la tête. Non, elle est partie chez sa mère. Ce que Renaud ne savait pas, c'était que Laura était déjà partie depuis une semaine, mais qu'Émile n'avait pas eu le courage de le dire à quiconque. Il s'était contenté de faire le mort, attendant que quelque chose se produise.
« Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?»
avait répété Renaud plusieurs fois avant qu'Émile ne puisse répondre. Ils s'étaient tous les deux installés dans le canapé du salon. Émile n'avait pas pu répondre tout de suite, car il ne voulait pas évoquer cette histoire de bébé. Il ne voulait pas avouer à Renaud qu'il avait pris ça à la légère, qu'il avait tout fait foirer en ignorant Laura et ses demandes, qu'il s'était réveillé quand il était trop tard, quand il avait senti qu'il la perdait. Il ne voulait pas avouer qu'il avait été le pire des goujats.
« Je comprends pas, vous étiez bien tous les deux. »
Renaud essayait d'avoir des mots gentils. Émile essayait de formuler une phrase.
« Elle dit qu'on n'était plus en phase. »
Renaud avait froncé les sourcils.
« Plus en phase ?»«
Ouais. » »«
Elle s'est sentie en décalage ?»«
Je crois. » Elle a dit quelque chose à propos du fait que j'avais pas évolué pendant toutes ces années. Le silence était retombé. Renaud avait un air peiné. Il semblait réfléchir, il cherchait ses mots. Il avait parlé lentement, comme s'il s'adressait à un tout petit enfant.
C'est terrible, mais... ça arrive, tu sais. Vous vous êtes connus jeunes, vous étiez que deux étudiants.
Comme Laetitia et toi. Renaud avait ignoré sa dernière phrase.
C'est fréquent qu'on évolue différemment dans un couple quand on se connaît si jeune.
Émile avait insisté.
Laetitia et toi aussi, vous vous êtes connus jeunes. Et pourtant, elle est toujours là. Vous êtes heureux.
Renaud avait dit avec tristesse.
Ah, c'est pas pareil.
Émile s'était un peu énervé. En quoi c'est pas pareil?
C'est...
Renaud avait mis des plombes à formuler sa phrase.
Laetitia est, comment dire, plus facile à contenter, dans le sens où elle a pas besoin de 1000 trucs pour être heureuse. La stabilité et la simplicité la comblent.
Émile avait froncé les sourcils.
Je comprends pas.
Elle a toujours été comme ça, Laura. Elle a toujours eu un tempérament de feu. Elle tient pas en place, elle a ce côté impulsif. Il lui faut toujours plus, toujours du changement, de la nouveauté.
Et
elle se serait pas contentée d'une relation calme et équilibrée comme Laetitia le fait.
La discussion était douloureuse. Émile faisait son possible pour repousser toute marque d'émotion, de faiblesse. Renaud semblait aussi effondré que lui.
Qu'est-ce que tu veux dire? Que j'aurais jamais pu la combler?
Non, c'est pas toi, vieux. Je suis sûr que t'as été parfait. Je crois que toi ou quelqu'un d'autre, c'est une fille qui s'ennuie vite, qui supporte pas la stabilité.
Il y avait eu un temps de silence lourd. Émile avait parlé avec des tremblements dans la voix que Renaud avait feint d'ignorer.
Pendant un temps, elle aimait bien le calme. Notre petite vie à l'appartement, ça lui convenait.
Ouais, pendant un temps.
Il s'était mis à fixer les images de la télévision en sourdine. Une publicité pour du jambon.
Tu crois que c'était inévitable? Qu'elle aurait de toute façon fini par péter un câble et partir?
Je sais pas trop.
Renaud s'était tourné vers lui avec cet élan de sincérité et d'admiration dans le regard.
J'aurais jamais pu sortir avec ce genre de fille. Laetitia, elle, je me sens rassuré avec elle. Mais les filles comme Laura, elles font bien trop peur. Je me serais jamais senti à la hauteur.
Émile avait déglutit.
Ouais.
Il n'avait rien su répondre d'autre. Les ruines sont en vue. Joanne court presque. Elle fait tomber son sac à dos devant les pierres et se penche en avant, les mains sur les genoux pour reprendre son souffle. Il a bien cru qu'il n'y arriverait jamais. Devant eux, le soleil se couche tout doucement. Il ne fera pas nuit avant une heure, mais le ciel s'auréole déjà de notes orangées et roses. Les vieilles pierres de l'ancienne cabane prennent des teintes dorées. C'est beau. C'est même à couper le souffle. Au loin, les vaches se sont regroupées pour la nuit. Elles sont couchées presque les unes sur les autres en petits tas sur l'herbe. Johan fait le tour des ruines, entre dans ce qui reste de la cabane. Il n'y a plus de toit. Les murs tiennent bon, mais par endroits, ils se sont totalement écroulés. La porte et les fenêtres ne sont plus que des trous béants. Le sol bétonné et bien plat sera parfait pour poser leur tente. Ils se rejoignent tous les deux au centre de cette vieille cabane à ciel ouvert, au milieu des gravats. Ils ont le même visage empli de ravissement.
On est bien là, non ?
Johan approuve. Quelques secondes passent. Il ne se lasse pas de regarder tout autour d'eux avec un silence émerveillé.
Il faudrait sortir le réchaud ?
Ouais, je vais m'occuper du feu.
Émile se sent épuisé et sale. Il meurt de faim. Pourtant, il n'a jamais ressenti ce sentiment de plénitude. Le silence est total. Il ramasse des brindilles, des petits galets pour le feu de camp. Plus loin, il voit Johan s'activer au-dessus du réchaud, leur casserole toute neuve en équilibre précaire. Elle a retiré son chapeau. Ses cheveux châtains se colorent des derniers rayons de soleil. Elle paraît presque rousse d'ici. Un roux rosé. Il empile les galets et les brindilles dans son t-shirt qu'il relève, puis rejoint les ruines avec des pas lents pour ne rien renverser. Le feu est plus facile à prendre que l'autre soir, au bord du ruisseau avec Chloé.
« Qu'est-ce que tu nous prépares ?» demande-t-il à Johan.
« Des pâtes. »
Il dispose deux grosses pierres plates à côté du feu pour leur faire des fauteuils. Johan s'y assoit. Elle pose le pain sur ses genoux et se met à le découper. Il s'occupe du fromage. Il commence à manger le pain et le fromage sans attendre que les pâtes soient cuites. Il mange lentement, le regard perdu dans le paysage. Il ne parle pas. Émile sursaute presque en entendant le cling de la casserole sur le sol.
Les pâtes sont prêtes.
Ils mangent dans leur gamelle en plastique. Le soleil se couche totalement. Les étoiles s'illuminent dans le ciel. Johan abandonne son assiette. Elle se lève, va chercher son duvet et s'installe par terre. Elle a pris son carnet avec elle et un des stylos. Elle est assise en tailleur et lui tourne le dos. Elle préfère faire face à la montagne. Elle semble perdue dans ses pensées, mais de temps en temps, elle se penche en avant pour noter quelques mots dans son carnet. Émile se lève à son tour pour prendre son duvet dans son gros sac à dos.
On monte pas la tente ?
Johan se retourne et hausse les épaules.
« On peut dormir à la belle étoile ? Le ciel est découvert ?»«
Ouais. »
Il s'allonge sur son duvet, les bras croisés derrière la tête, le regard rivé sur les étoiles. Le feu crépite. Il se sent somnolent. Il repense à cette journée qui semble avoir débuté il y a des milliers d'années. Le magasin de sport, les carnets, la préparation des sacs, l'ascension, l'ancien refuge. Les coupoles de l'observatoire. Il repense aux souvenirs qui sont remontés aujourd'hui, aux citations de Johan. Il repense au dernier souvenir qui est remonté, la discussion avec Renaud dans le canapé avec la télévision en sourdine. Il ne sait pas pourquoi ça lui est revenu. C'est une image assez banale. Le meilleur ami qui essaie de réconforter son pote largué. Les mots gentils qu'on se répète tous dans ces moments-là. Les « ça arrive, tu sais », les « c'est pas toi, vieux, je suis sûr que t'as été parfait. » Il a écouté Renaud ce soir-là, mais d'une demi-oreille, sans vraiment comprendre tout ce que ses paroles recouvraient.
« Elle a toujours été comme ça, Laura. Elle a toujours eu un tempérament de feu. Elle tient pas en place. »
Il a juste pris ça pour des paroles gentilles, une tentative de Renaud de le dédouaner d'une partie de la rupture, de l'alléger d'un peu de sa souffrance.
Laetitia est, comment dire, plus facile à contenter, dans le sens où elle n'a pas besoin de mille trucs pour être heureuse.
Renaud avait raison, bien sûr. Laura était impulsive. Elle s'ennuyait très vite et de tout. Elle avait toujours été un tourbillon. Pendant ses études, elle sortait beaucoup. Elle s'inventait des escapades. Après les études, elle s'était jetée corps et âme dans son boulot. Ça l'avait passionnée quelques mois, pas plus. Après, elle s'était mise en tête qu'ils devaient s'installer ensemble. Elle s'était jetée la tête la première dans la recherche d'appartement, le choix de la décoration, l'aménagement. Alors, il y avait eu cette phase où elle avait arrêté de sortir, elle avait abandonné sa vie sociale pour se consacrer tout entière à leur vie de couple. C'était à cette période qu'il l'avait crue acquise. Elle s'inquiétait quand il rentrait tard. Elle boudait quand il sortait avec ses amis. Elle réclamait toujours à faire l'amour. Puis c'était un peu retombé. Ses deux copines étaient tombées enceintes et elle avait commencé à lui parler de bébé.
Il lui faut toujours plus, toujours du changement, de la nouveauté.
Est-ce que Renaud avait eu raison bien au-delà de ce qu'il imaginait? Il ignorait tout pour le bébé, cette idée fixe et soudaine qui avait pris Laura corps et âme. Émile avait cru que c'était un caprice, puis elle était partie et il s'était fustigé. Il s'était accusé de la mort de leur histoire. Mais il n'avait pas compris que Laura était comme ça, comme Renaud le disait. Impulsive, avec un besoin éternel de changement. Et s'il s'était trompé? Et s'il avait vu juste au début? Si le bébé n'avait réellement été qu'un caprice, une lubie de Laura pour amener du changement dans sa vie?
Toi ou quelqu'un d'autre, c'est une fille qui s'ennuie vite, qui supporte pas la stabilité.
Elle avait amené le sujet un beau jour, un soir de tapas, et il l'avait esquivé. Il avait été idiot et immature. Il n'avait pas été prêt tout de suite à en parler sérieusement, mais elle avait eu tort, elle aussi. Il ne se contentait pas d'un rien. Il n'avait pas l'impression que c'était un rien, son existence, leur cocon, leur moment à deux, ses amis. C'était elle qui considérait que ça n'était rien. Il est toujours allongé sur son duvet, le visage tourné vers les étoiles, et il a l'impression que quelque chose s'est débloqué en lui, que ses épaules sont moins lourdes, que son cœur bat plus vite, comme s'il venait de se décharger de quelque chose qui l'enserrait depuis un an. Johan avait raison tout à l'heure. Il y a toutes ces choses qui remontent, mais là, on les voit différemment, avec de nouveaux yeux. Il n'est pas responsable de tous les maux. Il n'a pas causé à lui seul la rupture en repoussant de quelques mois cette envie de bébé. Il a fait ce qu'il a pu. Il a essayé de la combler. Ça a fonctionné un temps, mais pas éternellement. Laura était insatiable. Il ne sait pas ce qu'elle cherche, si elle l'a trouvée dans les bras de quelqu'un d'autre aujourd'hui ou au fond d'elle-même. Il pense que c'est au fond d'elle-même qu'elle devrait chercher. Il prend de grandes inspirations. Sa poitrine se soulève et s'abaisse à un rythme régulier. Il reprend de l'air avec empressement, comme s'il en avait été privé depuis trop longtemps. Bon Dieu, que c'est bon de respirer enfin. Il a eu de la chance, finalement. Laura a pris une sage décision en continuant à prendre la pilule, en comprenant qu'elle devait partir, le quitter, plutôt que d'attendre de lui quoi que ce soit qu'elle aurait dû attendre d'elle-même. Ils ont eu de la chance. Il a de la chance d'être là ce soir, au milieu des ruines d'une cabane en pierre. Il a de la chance de faire ce voyage. Quelque part, il a de la chance de savoir qu'il va mourir très bientôt. Sans ça, il n'aurait jamais pris le temps de partir, de voyager au cœur de lui-même, de voir les choses avec de nouveaux yeux. Il n'a jamais ressenti ça, ce sentiment de plénitude et de gratitude envers l'univers. Oui, il va mourir. Mais il est là ce soir. Il a compris énormément de choses. Il n'en est pas vraiment sûr, mais il a l'impression qu'il vient de se pardonner.
Johan !
Il chuchote. Sa voix porte à peine plus fort que le crépitement du feu. Il a peur de la faire sursauter. Elle a l'air tellement concentrée au-dessus de son carnet. Elle ne l'a même pas entendu se lever et aller jusqu'à son sac à dos.
Johan !
Il a parlé plus fort. Elle se retourne tout doucement.
« Oui ?»
Le feu danse sur son visage, dans ses cheveux. Ça lui donne une allure un peu folle.
« Je vais démarrer mon carnet, moi aussi. »
elle prend le temps de le regarder assis en tailleur avec le carnet posé sur ses genoux. L'ombre d'un sourire passe sur son visage. Elle est différente sans son chapeau qui la dissimule dans l'ombre. Elle est plus lumineuse.
Ah, bonne nouvelle!
Il se racle la gorge. Il a l'impression de parler comme un gamin quand il ouvre la bouche.
Je me rappelle plus de ta citation à propos du voyage, du fait de voir avec des yeux nouveaux.
Tu veux l'inscrire au début de ton carnet?
Elle a un petit air incrédule qui la fait ressembler à une petite fille, elle aussi.
Sur la couverture, en guise de titre.
Elle hoche la tête.
Bonne idée.
Elle se lève avec des mouvements lents, referme son carnet et vient s'asseoir plus près de lui.
Laquelle tu voulais inscrire?
Tu peux me les redire, toutes les deux?
Bien sûr.
Il ne se rappelle plus laquelle il a préférée cet après-midi, mais ce soir, au coin du feu, au pied des ruines, c'est la deuxième qui lui parle le plus. Johan la répète lentement pour qu'il puisse la noter en entier. Il essaie de s'appliquer à tracer de belles lettres.
Le plus grand voyageur est celui qui a su faire une fois le tour de lui-même.
Il relève son stylo et Johan s'éloigne.
Merci.
Elle retourne s'asseoir à l'écart. Elle n'écrit plus cette fois. Elle lève le visage vers le ciel et elle reste silencieuse. Il se demande ce qu'elle fait, pourquoi elle regarde si longtemps le ciel. Est-ce qu'elle essaie de repérer les étoiles? Est-ce qu'elle leur parle? 12 juillet, 22h. Sur le sentier des Muletiers, pic du Midi, au pied des ruines d'une cabane en pierre. Nuit dégagée, ciel étoilé. Me voici à la première page de ce carnet. Une idée de Johan. Je ne suis pas forcément très emballé par le concept, mais je vais tenter de l'écrire tout de même si ça me semble être une lubie de fille. Pourquoi elles ont toujours tendance à vouloir écrire des journaux intimes? Bon, je dois reconnaître que dans mon cas, c'est plutôt ingénieux, un aide-mémoire qui me servira également de carnet de lettres. C'est vrai que là où on sera, on n'aura pas toujours la possibilité de poster des courriers. Alors je me lance. Aujourd'hui, cela fait 5 jours que je suis parti. À peine une semaine. Pourtant, j'ai l'impression que cela fait déjà une éternité. Les 4 jours précédents me semblent avoir été bien vides. Comme un temps de flottement en attendant le vrai début du voyage. Mais aujourd'hui, on y est. On a garé le camping-car, on a pris le sac à dos et on est parti. On a démarré pour de bon. Aujourd'hui a été une journée éprouvante. Pas seulement parce qu'on a beaucoup marché, surtout parce que j'ai beaucoup pensé. Ce soir, il m'est arrivé un truc dingue, un truc qui m'était jamais arrivé. Je me suis accordé mon pardon. Par rapport à Laura, c'était comme une petite délivrance. Je me suis rendu compte que c'était rare qu'on se montre indulgent envers soi-même. Moi, j'avais perdu l'habitude de le faire. En fait, je crois que j'avais oublié que je pouvais m'aimer. Ça m'a fait penser à la liste des raisons que j'ai énumérées dans la lettre à mes proches concernant mon départ. Il y en avait 3 qui justifiaient ce voyage. Je peux aujourd'hui en rajouter une 4e, dont je n'étais pas forcément conscient, mais qui est pourtant une raison à part entière. Faire le point. Faire le point sur ma vie pour mieux me préparer à partir. On dit parfois qu'à l'heure du grand départ, les mourants voient leur vie défiler devant leurs yeux, qu'ils revivent les moments les plus forts. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois qu'on a tous besoin de faire ces retours sur image avant de s'en aller, de revoir les événements avec de nouveaux yeux, plus sages, avec le recul des années, de comprendre avec un grand C, de pardonner, de se pardonner. Je ne suis qu'au début du chemin, la route est encore longue. J'espère que j'y arriverai, que je trouverai la conclusion de ma vie et que je partirai en paix. Tiens, je suis sûr que Johan adorerait cette expression. Trouver la conclusion de sa vie. Elle est très branchée citation. D'ailleurs, c'est elle la citation sur la couverture du carnet. 5e jour donc, 5e jour seulement, et déjà je me sens changé. Déjà je vois les choses différemment. J'expérimente de nouvelles sensations. La plénitude, la gratitude, une certaine paix intérieure. Peut-être que la présence de Johan me tape sur le système. Peut-être qu'elle m'aide juste à changer. Peut-être que c'est moi tout seul qui fais ce chemin. Quoi qu'il en soit, je suis heureux ce soir. Le ciel est d'un beau bleu noir, les étoiles brillent, le feu crépite, et je me sens parfaitement bien.